Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour à 9h45 pour une petite chronique. Finalement, on voulait faire la chronique à Enzo, mais c'était tellement intéressant, l'entrevue avec Eve-Marie.
Oui, non, c'était passionnant, on a eu un bel échange. Je prends pas ça comme de la censure.
Non, c'est ça.
Je ferai ces news, vous ne m'aurez pas, je parlerai de vous prochainement. Je parlerai de la propagande que fait CNews sur les VG, j'en parlerai plus tard.
Mais on va peut-être avoir le temps d'en parler un petit peu, justement.
On pourra en parler dans ta chronique.
Ben oui, exact, parce que je voulais faire justement une petite chronique sur la démocratie en crise. Mais avant vraiment que je rentre dans ma chronique, c'est ça, je voulais souligner que c'est important de reparler justement de la lutte pour les femmes en général, le droit des femmes, parce que c'est une lutte constante. Il faut tout le temps lutter pour ça, et peu importe. C'est oui pour le féminisme, mais aussi pour les droits LGBTQ+. C'est une lutte constante, il ne faut pas arrêter, parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur les lauriers et faire comme si de rien n'était, parce qu'on a vu des reculs historiques, notamment aux États-Unis, par rapport à des droits qu'on considérait acquis. Donc, invitation à tout le monde de continuer à lutter et à vous battre pour une société pour laquelle vous voulez vivre dedans. Donc, moi, je finirais ça là-dessus, et j'embarquerais ça dans ma petite chronique sur que j'ai nommée « Démocratie en crise ». On va parler un petit peu de ça, puis après on va en discuter entre groupes parce que c'est vraiment quelque chose qui touche à tout le monde, à vous les auditeurs, à mes collègues de politique. La démocratie vit une crise actuellement et il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs conséquences à ça aussi. Je vais parler de quelques-uns des facteurs qui font qu'on a une démocratie en fait en crise. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez le voir, regardez un petit peu, vous pouvez aller voir le Democracy Index, qui est un regroupement qui, selon plusieurs critères, font c'est un indicateur composé, en fait, le Democracy Index. C'est un indicateur composé qui prend en compte plusieurs indicateurs, dont la liberté de presse, la liberté d'élection, liberté d'expression, nanana. Donc, toutes ces affaires-là, ils arrivent à des notes, en fait, un indicateur disant « Ah, ben toi, ton indicateur démocratique, c'est ça. » Concrètement, il y a un recul de la démocratie selon l'indicateur démocratique. Il y en a un à chaque année, vous pouvez aller voir, ça vaut la peine. C'est le fun de voir quels sont les critères, qu'est-ce qui a reculé. Et justement, là, si vous voulez, le père de la démocratie, on pourrait dire, pas les Grecs, les Américains, la démocratie moderne, on va dire un petit peu, là, les Américains ont...
C'est pas Robespierre, le père de la démocratie?
il l'a peut-être pas fait de la même façon. Il l'a pas instauré de la même façon. Mais du moins.
Son 29e, les Américains.
Exactement. Puis ils sont rendus dans la catégorie.
Démocratie imparfaite.
Démocratie imparfaite. Bon, entre nous deux, intimement, quand on attaque le Capitole, ça l'aide pas. Donc, c'est ça. Donc, on le voit, c'est clair, il y a des indicateurs qui prouvent la démocratie est en crise. Un petit peu pourquoi, là. Il y a plusieurs facteurs. Il y a une perte de confiance généralisée, en fait, dans nos institutions. La population, en général, croit de moins en moins dans ses institutions politiques et civiles. Et c'est ça, il y a une perte de confiance et la démocratie est vraiment axée, en fait, sur la confiance. Donc, j'ai confiance en ce que mes élus me représentent adéquatement. Mais cette perte de confiance-là, font que ben, tu crois pas que l'élu est capable de te représenter adéquatement. Tu trouves pas que les autres institutions mises en place sont des outils pour exercer ta démocratie de façon adéquate. Et justement, il y a une diminution des différents outils démographiques dans le monde. Donc, un outil démocratique, il y a les élections, il y a les assemblées, les séances du conseil ou consultations publiques que les gens peuvent en fait... utiliser pour justement parler, poser des questions à tes élus, et ça c'est vraiment un niveau un peu plus municipal, ou agir comme simplement bénévole dans tes municipalités. Donc ça c'est, je trouve qu'il y a une diminution justement de ces outils-là, les gens ne vont plus voir comment ça fonctionne, et ça cause une certaine incompréhension au final de ces outils-là. Donc une incompréhension de ces outils, de nos institutions et de leur fonctionnement. Il reste qu'il y a des demandes qu'on peut faire. Donc, chacun d'entre vous, en tant que citoyen, pouvez demander à votre élu municipal ou à votre député provincial ou même fédéral pour y dire j'ai un litige dans un contexte sociétal, là, peu importe, et vous pouvez leur faire une demande justement pour essayer de régler ce genre de litige-là. Mais il y a une incompréhension en fait de cet outil-là, de justement de faire ces demandes-là et de la charge de travail et des responsabilités de ces élus-là, de ces députés. Ce qui crée une énorme pression sur les élus qui doivent essayer de résoudre des problèmes impossibles à résoudre, ou du moins que c'est pas eux qui peuvent les résoudre, et ça crée de la frustration de la part de la population. C'est vraiment un effet boule de neige. Là. Tout, il y a une... Cette démocratie en crise-là, c'est pas un facteur, là. C'est toute la démocratie en tant que telle qui est en crise, et c'est justement, il y a une multitude de facteurs, et chacun des facteurs, on dirait, influence l'autre. Donc, il n'y en a pas un qui commence, il n'y en a pas un qui finit, mais chacun s'envenime. Et... Donc, il y a une accentuation, en fait, de l'incompréhension de la part de la population face aux élus qui ne sont pas capables de, justement, résoudre ces problèmes-là. Ensuite de ça, on arrive à une polarisation, justement, des idées dans la société civile. La polarisation des idées, c'est tout sauf une bonne façon d'aborder le dialogue, on va dire, ou du moins d'encourager le dialogue. C'est peut-être une meilleure façon de le dire. La polarisation des idées, en fait, crée... un noir, un blanc, un noir et un blanc qui s'affrontent. Et je crois que pour tous ceux qui vivent dans une société, ce qui, je crois, est pas mal tout le monde, rien n'est noir, rien n'est blanc. Et la discussion et les débats, la délibération sont nécessaires à une démocratie en santé. Donc là, je vais reprendre un film.
C'était d'ailleurs une des critiques justement pour l'index de démocratie que tu parlais au niveau du Canada.
Mm-hmm.
C'est un des deux points avec le fonctionnement du gouvernement, que autant avec la culture politique qui justement mm-hmm. avec la polarisation. Ouais. On en voit un peu un exemple avec la pré-campagne électorale actuellement où ce que mm-hmm. libéraux et conservateurs se renvoient beaucoup la balle.
Oui, exact. Tu sais, il n'y a pas de dialogue et c'est justement sa culture politique s'effrite parce qu'il y a aussi, excusez-moi, il y a une incompréhension de la population face au réel enjeu politique et je crois que le politique est aussi responsable, je tiens à le dire, hein, est aussi responsable de ne pas être capable de transmettre adéquatement ses idées, ses objectifs à sa population. Donc la population n'est pas capable de réellement comprendre puis c'est la faute du politique, selon moi, jusqu'à un certain point, de ne pas être capable de l'expliquer. Je ne sais pas si c'était clair pour vous, là. Donc, j'ai eu un hochement de tête de la part de Marc-Antoine qui a compris ce que je voulais dire, ou du moins sensiblement. Donc, c'est ça, la popularisation des idées effrite la culture politique au sein des États, de notre société. Et c'est ça, ça ne met pas en place pour une société civile adéquate pour un partage des idées. Et là, j'aime porter un drôle de concept, en fait, c'est que dans le temps, dans cette vieille époque, où chacun allait acheter le journal pour aller lire le café au pub, qu'allait lire au café, au pub, pour en discuter avec, justement, les copains, ben ça, c'était une bonne façon, selon moi, justement, d'avoir une culture politique en santé et où la discussion était beaucoup plus facile et non polarisée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Moi, je trouvais vraiment que l'avènement, en fait, des téléjournaux, les internets ont tellement explosé, justement. Là, je vais reprendre un concept d'un sociologue français, Gérald Bronner. Lui, il parle du marché cognitif. Le marché cognitif, c'est vraiment dans l'espace. Imaginez un espace, ben, il y a un espace d'information. Donc, dans le temps, ou quand Internet n'existait pas, c'est un marché-là, il était réservé aux livres, il était réservé à ce qu'on lisait dans le journal, et ce qui était, peut-être, mettons, je vais inclure la télé, et c'est ce qui était, mettons, dans les émissions, dans les téléjournales, justement, où il y a un animateur, et il y avait ce qu'on appelle un gatekeeping. Un gatekeeping qui est comme le gardien traditionnel, un gatekeeper traditionnel, qui est un journaliste qui, lui, va prendre l'information brute. Donc, il va récolter l'information et il va la filtrer pour la transmettre à ses auditeurs. Donc, ça, c'était beaucoup plus facile dans le temps, justement parce que, ben, il n'y en avait pas d'autre façon nécessairement de transmettre cette information-là. Les politiciens donnaient l'information justement aux journalistes qui la relayaient. Donc, on avait une certaine rigueur, justement, peut-être journalistique plus forte qu'actuellement, due justement à la compétition entre les journaux et l'Internet. Donc, les journaux traditionnels doivent maintenant s'opposer à Internet et ces choses-là. Donc, on est d'accord, là, c'est difficile de compétitionner contre Facebook. Donc, on a un changement, en fait, des gatekeepers. Donc, excusez-moi d'utiliser ce concept-là en anglais. Là, il n'existe pas nécessairement en français. Il appelle ça des gardiens traditionnels. Donc, maintenant, nos gardiens, en fait, c'est les algorithmes des réseaux sociaux et des moteurs de recherche. Donc, c'est eux, en fait, qui vont réguler ce qu'on voit. Toutefois, les algorithmes, en fait, ce qui régule, c'est pas la qualité de l'information, c'est ce que tu veux voir ou ce que tu veux entendre. Donc, moi, mettons, j'aime beaucoup, beaucoup les vélos. Je vais avoir plein de publicités de vélos tout le temps. Et ils vont m'encourager à, justement, m'envoyer des publicités parce qu'ils veulent, en fait, c'est des clics. C'est des clics, c'est des likes, c'est des commentaires, c'est des partages. Donc, par ce clic-là, c'est ce qui va réguler, en fait, les algorithmes. Tandis qu'avant, c'était plus une régulation, en fait, de la qualité de l'information. Donc, tout ça... Ah oui, puis ça crée, en fait, des bulles de filtrage, là, si jamais vous avez... Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept-là. On en a parlé notamment dans Polymédia. Et si jamais nos auditeurs, vous ne savez pas c'est quoi, bulle de filtrage, je vous invite vraiment à aller voir. C'est dans l'idée que on finit par se retrouver dans des bulles d'informations ayant seulement une opinion parce que les algorithmes, justement, encouragent le nombre de clics. Donc, ils vont pas te donner des informations qui s'opposent à tes idéaux ou à tes convictions parce qu'ils veulent que tu cliques, ils veulent que tu aimes. Fait qu'ils donnent tout le temps des informations que tu aimes et encouragent, en fait, et non la diversité d'idées, mais une seule idée.
Ce qui est aussi apparenté aux chambres d'écho d'Habermas.
Oui, c'est ça, exact. C'est exactement la même chose. C'est le même conseil. Donc, ce que je veux dire, c'est que il n'y a plus d'emphase sur les dialogues. Il y a des emphases sur la viralité de l'information et sur les propos polarisants. Donc, au final, on se retrouve avec une dualité dans le monde. Sur chaque enjeu, finalement, on se retrouve avec une dualité et plus de discussion. Donc, chacun est un contre l'autre au lieu d'avoir des discussions fructueuses. Et justement, là, c'est une des raisons, je trouve, qu'on a un recul, en fait, dans la culture politique. Et je comprends que ce n'est plus invitant pour la société non plus de participer à ce dialogue-là ou à ces discussions-là, car c'est si polarisant, c'est de l'attaque. Et c'est pas de la discussion, donc très peu de choses, je trouve, au final, que tu peux en ressortir dans la compréhension politique, parce qu'au final, c'est pas ça l'accent qui est mis dessus, c'est pas sur la compréhension, sur la discussion, c'est sur la polarisation de l'idée. Donc, avant qu'on continue, moi, je vous enverrai une petite pause musicale et pause publicitaire, et on se retrouverait après pour justement parler avec mes collègues, voir où est-ce que s'en va notre démocratie, est-ce qu'il y a des solutions apparentes? En tout cas, je vous envoie une petite pause musicale et publicitaire, puis on en parle tout de suite après.